La plupart des combattants, du moins des bénévoles russes, des jeunes bénévoles, enfin jeunes et plus ou moins jeunes, qui quittent la Russie pour aller se battre dans le Donbass, ils ne voient pas avant tout un vrai but idéologique à cette guerre. C'est-à-dire que l'idéologie, c'est quelque chose qui leur sert de prétexte. Parce qu'en Russie, on vit complètement dans un autre monde, dans un monde parallèle, un monde où la propagande est très très forte et où la télévision martèle tous les jours que des fascistes qui seraient arrivés au pouvoir après la révolution de Maïdan à Kiev seraient venus pour massacrer les populations civiles russophones de l'est de l'Ukraine. Donc ça, c'est un discours qu'ils entendent vraiment tous les jours à longueur de journée. Mais c'est quelque chose qui sert à un espèce de mouvement de masse vers le Donbass pour aller soi-disant défendre ces populations, tout en sachant que les hommes russes sont nourris, sont élevés au discours patriotique incarné par la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle ici la Grande Guerre patriotique, la victoire des grands-parents sur les nazis. Donc ces jeunes russes qui entendent ce discours comme quoi des fascistes auraient pris le pouvoir en Ukraine pour aller massacrer les populations, c'est assez glorifiant pour eux par la suite de se dire « je vais aller prendre les armes pour aller combattre dans le Donbass ». Mais moi j'ai l'impression que les causes sont avant tout, je pense, plutôt égoïstes, puisque c'est un geste très égoïste de partir à la guerre. On quitte sa famille, on quitte sa maison, on quitte son foyer, on quitte sa vie. Et quelque part, on part chercher l'aventure. Il y en a qui disent que c'est un jeu grandeur nature. Les hommes, les garçons adorent jouer avec les armes. Et là, on a l'occasion d'aller s'essayer à quelque chose, de devenir un héros, de montrer qu'on est fort, qu'on a peur de rien. C'est de l'adrénaline, c'est un peu comme du paintball, mais avec des vraies armes. Et c'est terrible à dire, mais c'est vrai que pour les Russes, c'est un ensemble de choses. Alors parfois, les causes, ils ne se l'expliquent pas eux-mêmes. Leur raison de partir faire cette guerre, c'est ce qui arrive à nos héros dans le film. C'est-à-dire qu'en grattant un peu le vernis du dogme, on se rend compte que finalement, ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont là.
Quel est leur lien avec la Russie? Est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement russe qui entretient et qui met en place des filières de combattants russes pour aller combattre en Ukraine, ou bien on se contente de susciter quelques rêves d'aventure chez quelques-uns?
Du côté du gouvernement russe, pour ce qui est de ses mouvements de bénévoles, en tout cas, la seule chose qu'il a eu à faire, et qu'il a très bien réussi, c'était mettre en place cette énorme propagande. C'est ce qui s'est passé avec ses bénévoles. Maintenant, du point de vue purement militaire, non, le gouvernement russe ne met pas en place des filières pour que les combattants partent vers le Donbass, tout simplement parce que ce n'est pas compliqué d'y aller. On n'a pas besoin d'avoir une filière. On prend le train, on va jusqu'à Rostov, on franchit la frontière. Là, il y a éventuellement des groupes qui viennent vous chercher. Mais tout ça, ça s'est organisé assez méthodiquement sur les réseaux sociaux, avec des organisations de vétérans, les tout premiers en tout cas bénévoles. Il y avait effectivement des organisations paramilitaires pour aider les combattants, mais ce n'était pas organisé par le gouvernement. Le rôle du gouvernement russe, de l'armée russe sur place dans le Donbass, c'est que en fait, tous les bataillons de bénévoles, depuis l'hiver 2014 et jusqu'à cet été, ont été dissous pour s'intégrer dans une véritable armée de la DNR. Et cette armée-là, elle est complètement organisée par la Russie, c'est-à-dire qu'elle est armée par la Russie. Sur place, à Donetsk, il y a des officiers de l'armée russe, ils sont assis dans des bureaux, on ne les voit jamais. Ils organisent les entraînements, il y a des camps d'entraînement pour l'armée. Ils font des contrôles, ils vont sur place dans les bataillons pour vérifier la discipline, l'ordre, l'armement, etc., etc. Donc ce sont des gens qui ont vraiment une fonction d'organisateur, de conseiller, de formateur et finalement de hiérarchie, de généraux. Donc ça, ce sont des Russes, de l'armée régulière, mais sur place, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de troupes russes. Et la Russie, disons que c'est ce rôle-là qu'elle a joué pour les bénévoles, c'est-à-dire que les jeunes bénévoles ont d'abord intégré des bataillons qui eux-mêmes étaient parfois organisés par des commandants bénévoles, même par des locaux parfois, parce qu'il y a aussi beaucoup de locaux qui font cette guerre. Mais ensuite, toute l'organisation de l'armée de la DNR au-dessus, ça ce sont des Russes.
À un certain moment, le héros, Oleg, déclare à ses parents qui sont venus le voir sur le front, il n'y a pas de guerre ici. On est presque tenté de le croire, mais qu'est-ce qui est vrai au juste? La propagande que reçoivent les parents en Russie ou bien ce qu'ils montrent à ses parents?
Dans le Donbass, la guerre est assez particulière, c'est-à-dire que surtout à Donetsk. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de front qui se trouve à quelques kilomètres du centre-ville, où là, il y a vraiment la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des bombardements, il y a des gens qui meurent, des civils qui meurent, il y a des maisons détruites. Mais vous faites quelques kilomètres en voiture et vous vous retrouvez dans une ville qui vit pleinement, où les gens sont revenus pour la plupart, parce qu'il y avait une époque, en 2014 notamment, où la ville était complètement vide. Mais là, la ville vit comme une ville normale presque, c'est-à-dire que les cafés sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les gens se promènent le soir. Ils vont au cinéma, ils travaillent. Donc c'est vrai que c'est très particulier comme ambiance parce que vous faites quelques kilomètres et là vous avez une ligne de front où il y a vraiment la guerre. Mon collègue, finalement, il n'avait pas de mal à mentir à ses parents là-dessus parce qu'il ne les a pas emmenés une seule fois sur la ligne de front. Mais ce n'est pas compliqué de leur faire croire ça, puisqu'effectivement, quand vous ne sortez pas de Donetsk, vous avez l'impression qu'il n'y a pas la guerre.
Oleg déclare également, les gens ne savent pas pourquoi ils se battent. Moi, je me bats parce que mes gens sont morts, mes gens, les hommes qui étaient sous ses ordres. Finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
C'est un prétexte, parce que comme il n'a pas vraiment de cause pour laquelle se battre, il se rend très bien compte du fait que la cause qui lui a été vendue n'est pas la bonne. Il faut qu'il se construise une échelle de valeurs parallèle, parce que ce n'est pas un méchant, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de croire en quelque chose. Et qu'il n'est pas là juste pour le plaisir de commettre des crimes de guerre. À ma connaissance, n'en commet pas d'ailleurs, donc c'est quelqu'un qui cherche une bonne cause là où il est, et c'est pas facile non plus de tout abandonner et de partir. Donc il se construit une échelle de valeurs parallèle qui est la fratrie, le devoir du soldat, le devoir envers son commandant, le devoir envers ses hommes qui comptent sur lui. Et à partir de ce moment-là, effectivement, dans cette échelle de valeurs-là, lorsque la moitié de son bataillon a été décimé, il faut qu'il éveille en lui un esprit de vengeance pour pouvoir continuer.
Quel est le sort de ces hommes qui rentrent en Russie?
Malgré tout ce discours de glorification de la propagande qui dit qu'on part défendre une bonne cause dans le Donbass, ces gens-là, ils sont complètement livrés à eux-mêmes, ils n'ont rien, ils ont du mal à trouver un travail, ils sont exclus socialement. Ils sont souvent des dettes, parce que quand vous partez, vous laissez des choses derrière vous. Donc il y a des dettes impayées. On a du mal aussi à trouver du travail, parce que paradoxalement, malgré la propagande, si d'aventure votre employeur savait, et il y a des choses sur Internet, savait que vous avez fait la guerre, ça peut être compliqué aussi pour trouver du travail, parce que tout le monde n'est pas du tout volontaire à prendre un ancien combattant qui sort tout juste d'une zone de conflit pour aller travailler chez soi. Donc c'est très très compliqué pour eux, effectivement. Il n'y a absolument aucune aide du gouvernement. Alors il y a une Union des bénévoles du Donbass qui a été créée, il y a des antennes locales, qui apparemment fait des choses pour aider ces ex-bénévoles à s'intégrer, à trouver du travail. Mais il n'y a pas d'aide du gouvernement envers, ni envers cette association, ni envers les bénévoles.
Qu'est-ce que cette guerre révèle de la Russie d'aujourd'hui ?
Cette guerre révèle que finalement la Russie met en place des méthodes qui sont rodées de longue date. Ces méthodes de guerre hybride où on ne déclare pas vraiment la guerre, mais on envoie l'armée afin de créer cette espèce de zone tampon de territoire à statut indéterminé, sans le reconnaître vraiment, mais tout en distribuant des passeports et en mettant en place une force armée. C'est des méthodes qui ont déjà été employées. Cela révèle surtout que pour défendre ses intérêts, la Russie n'est pas prête à assumer un conflit. Vladimir Poutine veut tout à la fois s'intégrer dans la communauté internationale parce qu'il n'a pas été prêt à dire qu'il déclarait la guerre à une Ukraine soutenue par l'Occident, tout autant qu'il n'est pas non plus prêt à céder sur sa velléité d'empire et de grande puissance et de zone d'influence autour de la Russie, et qu'il est prêt effectivement à mettre en place ces mécanismes-là, tout en sachant que aujourd'hui personne n'est dupe et qu'il est rentré dans une confrontation vraiment frontale avec l'Occident. Alors maintenant, peut-être que les rapports de force vont changer au vu des nouveaux pouvoirs et des nouvelles élections qu'il y a aux États-Unis notamment et aussi en Europe. Et peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus facile pour lui justement de faire valoir ses intérêts.